Assis sur ce banc ombragé, vous laissez votre esprit dériver sur les eaux calmes du bassin des filtres là, devant vous. La journée est chaude, le son du vent dans les feuilles des tilleuls dissimule le bourdonnement du périphérique. Dans cet écrin de verdure, vous oubliez la ville.
Oh, regarde le joli castor qui nage!
Ah, mais non, c'est un gros rat. Allez, viens, on s'en va.
L'expression de dégoût que vous venez d'entendre en dit long sur le regard qu'on porte généralement sur ce mammifère commun, mais pas si connu. Vous voyez de qui je parle? Le ragondin. Fouillez de vos yeux la bordure du bassin. Vous pourriez bien y observer deux spécimens occupés à nager. Animal aquatique, notre ami Myocastor coypus, de son nom savant, est depuis les années 70 un habitant permanent de la Garonne et des canaux du Midi et de Brienne. D'une taille moyenne de 60 à 80 cm, c'est un gros rongeur à la fourrure brune, au corps trapu et à la tête en triangle, surmontée de petites oreilles. Pas de risque de le confondre avec son cousin le castor, qui ne vit pas à Toulouse. Mais attention à bien le distinguer de son acolyte le rat musqué. Le ragondin est nettement plus gros. Il a une longue queue cylindrique dépourvue de poils. Sa fourrure est brun foncé, quand celle du rat, plus claire, tire sur le gris. Dernier détail utile, si vous regardez sous la truffe d'un ragondin, derrière ses moustaches, vous verrez dépasser quatre incisives orange vif. Mais bon, de toute façon, on croise nettement plus souvent des ragondins que des rats musqués, plus discrets. Les individus que vous observez ont probablement creusé leur terrier par ici, dans les berges des bassins. Imaginez un peu, une galerie étroite allant jusqu'à 6 mètres de long, qui mène à une chambre, au sol tapissé d'une litière de végétaux. La principale entrée du terrier est immergée, ce qui permet au ragondin d'y pénétrer sans sortir de l'eau. Mais il prend soin de se ménager plusieurs accès, dans et hors de l'eau. Le ragondin sort assez peu de son bain. Sa morphologie est totalement adaptée à son milieu. Son nez, ses yeux, ses oreilles situées sur la partie haute de son crâne surnagent quand il est immergé. Ses pattes postérieures sont palmées. Sa fourrure est constituée de poils épais et imperméables. Chez les femelles, les mamelles sont situées très haut sur les flancs, près de la colonne dorsale, ce qui leur permet d'allaiter tout en se déplaçant dans l'eau. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les eaux dormantes, ou avec peu de courant. Vous en croiserez pas mal sur le canal du Midi, par exemple. Et les berges recouvertes de végétation permanente, dont il se nourrit abondamment, allant jusqu'à boulotter près de 25% de son poids en végétaux frais par jour. Petit détail croustillant, comme il ne trouve pas les nutriments et acides aminés dont il a besoin dans les végétaux qu'il mange, il pratique ce qu'on appelle la double digestion. C'est-à-dire qu'il consomme ses propres cacotrophes, petites crottes molles qu'il n'a pas totalement digérées et qui lui apportent les compléments nécessaires. Voilà, voilà. Ah, à les observer clapoter comme ça dans l'eau, on sent monter cette émotion, celle qui nous étreint à chaque contact avec la faune sauvage, avec cette nature fragilisée par l'homme, mais dont malgré tout quelques représentants sont encore visibles dans la froideur de l'espace urbain.
Mais qu'est-ce que vous racontez ? Le ragondin n'est absolument pas fragilisé. Il se multiplie à vitesse grand V et n'est pas vraiment un représentant de la nature sauvage. En tout cas, pas de celle d'ici.
En fait, son deuxième nom latin, coypus, viendrait de coypu, qui voudrait dire « celui qui nage majestueusement en mapuche ». Oui, parfaitement, en mapuche. La langue indienne autochtone parlée en terre de feu, cette région entre le Chili et l'Argentine. Ah oui, parce qu'il n'est pas originaire du Lauragais, ragondin, mais plutôt de Patagonie. On en entend parler en Europe à la fin du XVIIIe siècle, à travers l'ouvrage « Histoire naturelle du Chili » rédigé par le prêtre jésuite Juan Ignacio Molina, qui évoque un rat d'eau de la grosseur et de la couleur d'une loutre. Début XIXe, c'est à Paris, par l'étude d'un stock de fourrure importé et vendu dans le commerce européen depuis quelques années déjà, sous le nom de « racunda », qu'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste, rédige une première publication sur le ragondin, le plaçant sur le devant de la scène scientifique. En France, à partir de la moitié du 19e, quelques spécimens sont ramenés dans les parcs zoologiques ou exhibés dans les foires comme rats monstres dont on dit qu'ils mangent les enfants. Au début du 20e siècle, emboîtant le pas aux expériences précédemment menées en Argentine, les premiers élevages se développent en Europe. En France, dans les années 30, on en compte près de 200, répartis sur l'ensemble du territoire. Mais l'industrie de la fourrure, touchée par la crise, puis la guerre, va lentement péricliter jusqu'à sa disparition quasi totale dans les années 80. Et les ragondins, eux, s'échappent de leur cage quand ils ne sont pas directement relâchés en masse. Vous imaginez la suite ? L'animal domestique a pris la clé des champs. Il est devenu féral, ensauvagé, s'acclimatant avec bonheur dans les cours d'eau, étangs et marais, jusqu'à être aujourd'hui présent dans 70 départements en France. Et son installation n'a pas eu lieu qu'ici. Il habite désormais sur tous les continents, de la Finlande au Botswana, de la Thaïlande à l'Arménie, de l'Uruguay à la Grèce. S'il s'est très vite multiplié, c'est qu'il avait été sélectionné pour sa haute prolificité. La femelle peut en effet avoir 2 à 3 portées par an, selon les conditions météorologiques, comptant chacune 3 à 12 petits. Et puis ici, il n'a que très peu de prédateurs naturels. À la base, il est plutôt chassé par le caïman ou le jaguar. Alors il devient visible, trop visible, dérangeant les activités des êtres humains, de celles et ceux qui sont allés le chercher quelques années plus tôt. Mercredi 5 novembre 2014, Nantes. Lors d'une manifestation d'agriculteurs organisée par la FNSEA, des ragondins sont jetés de caddies, aspergés de peinture, battus par des manifestants et manifestantes. Face à l'indignation de l'opinion publique, le président de la FNSEA 44 s'insurge.
C'est scandaleux que tout le monde se focalise sur cette histoire. Il y a visiblement un décalage profond entre les citadins et le monde rural. Il faudrait que les citadins sortent un peu de chez eux et mettent des bottes pour voir notre réalité. Les ragondins sont des animaux nuisibles. Ils détruisent les ruisseaux, les berges, les récoltes, véhiculent des maladies pour le bétail. Ils peuvent aussi être dangereux et agressifs pour l'homme. C'est un fléau pour notre profession et nos campagnes. Et c'est pas pour rien qu'ils sont piégés.
En trois mots, cet homme a résumé la terrible réputation du ragondin et les charges retenues contre lui. Les galeries qui creusent déstabilisent les berges et contribuent à leur effondrement. On dit de son grand appétit qu'il conduirait à la disparition de certains végétaux aquatiques, là où il est présent. Par ailleurs, on l'accuse d'avoir un goût trop prononcé pour les céréales cultivées à proximité des cours d'eau, ce qui ne serait pas sans conséquence sur les activités agricoles. Pour ne rien arranger, il peut être porteur, comme pas mal d'autres animaux, de plusieurs maladies transmissibles à l'homme, et notamment la leptospirose, aussi appelée maladie des égoutiers, susceptible de générer des altérations graves des reins et du foie. On peut entrevoir dans ce réquisitoire la mise en relief de certaines de nos dérives de gestionnaire, comme l'artificialisation des zones humides et aquatiques qu'affectionne l'animal, la chenalisation des cours d'eau, la réduction de la flore spontanée des bords de rivières au profit des cultures. Mais bon. Une chose est sûre, c'est qu'il n'en fallait pas plus pour qu'on mène la vie dure à cet animal, jadis qualifié officiellement de nuisible, appellation remplacée depuis la loi de 2016 sur la biodiversité, par le joli nom d'Ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Une petite nuance qui a son importance et qui nous donne l'occasion de regarder de plus près les textes. Historiquement, dans la loi, un animal est soit domestique, soit sauvage. Res propria, bien, propriété de quelqu'un, ou res nullus, chose sans maître. Mais quid du ragondin, de la perruche à collier ou de la vache férale corse, un temps domestique, aujourd'hui sauvage ? L'arrêté du 11 août 2006, donnant la définition d'animal domestique, s'accompagne d'une liste d'espèces dans laquelle paraît la perruche à collier, mais pas le ragondin. Le ragondin fait donc partie des bêtes sauvages, res nullus, propriété de personne, qui sont elles-mêmes classées en différentes catégories. Espèce protégée, espèce chassable, espèce sans statut, donc ni chassable ni protégée. Et Ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, ex-nuisible, classement qui signifie toujours « à détruire » et dont le ragondin fait partie. Pire, il est dans la liste des animaux non indigènes, pas de chez nous. Les fameuses EEE, espèces exotiques envahissantes, dont on a parlé précédemment avec la perruche à collier. Les propriétaires des terres sur lesquelles il est présent sont donc autorisés à l'éliminer ou à le faire éliminer toute l'année et il peut faire l'objet de battues administratives. Bon, ça, c'est plutôt à la campagne. En ville, notre mammifère aquatique bénéficie d'un coefficient de sympathie bien plus grand qui lui vaut d'être souvent défendu par ses voisins et ses voisines humaines. Alors, animal non indigène, sorti des élevages et ensauvagé, mignon ou inquiétant, manifestation du sauvage en ville ou nuisance sur pattes, Selon les personnes et les contextes, le rat gondin est pris dans les filets de notre histoire et de nos contradictions. Il traduit bien la complexité des relations que nous entretenons avec les autres espèces animales, les manipulant sans maîtrise et nous trouvant sans cesse rattrapés par les déséquilibres que nous créons. Car une chose est sûre, le rat gondin n'a pas fini de se multiplier.